France Culture.
Je me rappelle d'un personnage très sympathique, assez abordable, habillé simplement.
David Girard, le prince du business gay.
Tout ça, c'est entre 1980 et 1990, le jour de sa mort.
Pour moi, cette période-là, c'est la démocratisation, c'est la visibilité. Hein.
Un documentaire de Yves Deloison et Nathalie Salles.
Mais justement, ces 10 années, elles ont transformé, pas que moi, tous les gens qui ont travaillé avec lui. Ça a vraiment été un déclencheur, David, pour beaucoup de choses. Dans le milieu des affaires et dans les milieux humains aussi.
Épisode 1, bâtir et briller sous l'arc-en-ciel. Avril 86, apostrophe. Bernard Pivot interroge Alberto Moravia et Gilles Perrault. À leur côté, David Girard, 27 ans à peine, déjà ses mémoires publiées. Ricaneur, l'animateur lâche que le livre ne vaut pas un clou, juge l'auteur arrogant, cynique, mégalo, et demande « Mais enfin, qu'avez-vous réalisé comme exploit ?» 2 ans plus tôt, tout juste adulte, je descends d'Amiens en stop pour vivre mes premiers émois parisiens. J'entre pour la première fois aux hautes tensions, le club de David Girard. High Energy, stromboscope, corps serré sur la piste, et lui qu'on me présente souriant, bienveillant, généreux. L'histoire de David, ex-tapin originaire de Saint-Ouen, devenu patron et pionnier, c'est celle des années 80 où tout semble possible. Les gays savourent une liberté conquise de haute lutte, jusqu'à ce que la tragédie rattrape la fête.
Alors, Louab ?
Eh bien là-bas, c'est David. 16 rue du Progrès, à Saint-Ouen, 93-400. C'est la maison où on avait tous rendez-vous. Un jour, mon frère m'a dit « Viens, je t'emmène chez David, tu vois, il est sympa et tout, il a un appart, il y a de la musique et tout. » Bon, j'ai dit « Ok, c'est tout. » C'est comme ça que ça a commencé. David m'a mis à l'aise, moi. On veut aller chez lui, on vient, on frappe au volet, il ouvre la porte, on rentre. Et là, on avait, quand on rentrait dans la pièce principale, l'appart de David, le bar, comme une discothèque, hein. Le bar, le grand canapé où tout le monde s'installe, et une petite porte pour aller dans la cuisine. La petite porte dans la cuisine, quand la grand-mère Suzanne, elle arrivait, on revait la gueule parce qu'elle disait « C'est quoi? C'est un foyer? C'est un squat? Ce truc, c'est pas possible. C'est insupportable. » Donc, elle râlait. Et elle entrait dans sa cuisine, on la voyait plus. Et elle avait sa chambre qui était juste derrière. Là, je vois 2 petites fenêtres, mais pour moi, c'était grand à l'époque, hein. C'était presque impressionnant de me dire que là, quand je regarde, je me dis quoi, c'est ça la pièce où on était tous? Si c'était ouvert, on tapait aux fenêtres, il dit bah rentrez. Hop, puis on rentrait. Mais on rentrait pas ni pour boire, juste pour s'asseoir et pour rigoler et sortir des conneries, c'est tout. Mais si on lui demandait de sortir pour aller faire un tour, par exemple, il y a un stade de foot, tu viens, on va jouer au soir, il dit non.
Il habite ici pourquoi?
Parce qu'il n'a pas où habiter à part chez la grand-mère. Il vivait chez la grand-mère. Et nous, on ne lui a jamais vraiment posé de questions. C'est pas quelque chose qui nous intéressait. Pas de parents, ni père ni mère, lui et sa sœur.
Saïd, vous étiez un proche de David Girard à l'époque.
Ah, mais j'ai déjà rencontré du temps de notre enfance à Saint-Ouen, puisqu'on se connaissait gamin. On s'est ensuite perdu de vue. David était un jeune homme plein d'ambition. C'est sûr que... Il avait envie de réussir, il était plein d'énergie, il avait des idées à droite à gauche en permanence. Il était très patient, très diplomate, il s'énervait rarement. Il prenait vraiment les choses le plus simplement possible. Il ne se compliquait pas la vie. Il allait directement au but. Mais il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait et il ne tournait pas autour du pot quand il voulait quelque chose.
Il a changé entre le moment... où je l'ai connu, très casanier, je sors pas, on boit, on rigole, on fait la fête, on met de la musique, même tard la nuit. Je me demandais comment la grand-mère elle pouvait supporter la musique. David, il aimait bien la house, il aimait bien la soul, il aimait bien les musiques black, il aimait bien. Et le Cold War, ça fait quand même du bruit, hein, je suis désolé. Première chose qu'il a fait, c'est faire les marchés. Et il a fait les marchés et j'ai trouvé ça génial d'entreprendre parce qu'il n'a pas été à l'école comme moi, il n'a rien fait comme moi, il n'a pas sorti de diplôme. Hein. Et à partir de là, il a dit, je vais faire les marchés, et il a adoré ce qu'il a vu sur les marchés, des mecs vendent à la postiche. Et il a dit, je veux faire ça. En fait, tu vas sur les marchés, tu déballes les licans, tu mets des draps, du pas cher, t'en fais un tas, un monticule, et tu vends au micro. Tu mets un micro, et tu commences, et tu vends au micro. Tu démarres à 10h, et tu finis quand t'as plus rien. Donc tu ne fais que parler. Tu prends les mouchoirs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, comptez bien, et voilà, et je te vends les mouchoirs, les grandes toilettes, les draps, les trucs. Et quand j'ai vu, il m'a dit, accompagne-moi, tu vas m'aider. Je l'ai accompagné, je l'ai écouté, j'ai dit, c'est un génie. Quand j'ai eu la poubelle avec le pognon dedans, j'ai dit, c'est un génie. On mettait l'argent dans la poubelle, il y avait la poubelle, elle était pleine. Et après, on rentrait, on rangeait les billets, et on faisait des paquets. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et là, je lui ai dit, montre-moi. Ça me plaît. Et j'ai fait comme lui. Quand on s'est perdu de vue, j'ai fait le marché.
C'est qui ? Ah, c'est David. David Girard, avec sa petite veste trois quarts, là, qu'il adorait. Ça se fait plus aujourd'hui. Mais il était très à l'aise en public. Il aurait fait un très bon homme politique. S'il était encore parmi nous, je crois qu'il serait Xavier Niel, à mon avis. Avec l'arrivée d'Internet, toutes ces choses-là, il aurait embrayé là-dessus et il serait monté très très haut.
Moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au jour où il y a des bruits qui disaient « Il paraît que David, il fait la pute, rue Sainte-Anne, tu connais le club, le 7, une boîte de nuit, homo, hétéro, mais un peu, beaucoup d'homo. » Et un jour, Marilyn, qui était copine, Marilyn, elle sortait avec Saïd à l'époque. Et c'était un peu notre groupe. Marilyn, copine, frère de Dominique. Dominique, mariée à Nadia, sœur de David. Donc, on est dans un truc un peu familial. Et elle vient, elle me dit, si, si, je te jure, hein, il est un homo et tout ça. Et un jour, elle me dit, ah yeah, je sais où il est. Je dis, bon, alors il est où? Elle me dit, il est à Place de Clichy. Je crois que c'était 10 avenue Place de Clichy, je crois, de mémoire. Et elle me dit, tu vas voir, il y a une plaque en cuivre. Il y a marqué David Relax.
On s'est retrouvés au fin des années 70, 79, 80, quand il avait créé David Relax. C'est par Marilyn, qui voulait absolument que je le retrouve, qui savait qu'on se connaissait jeune, qu'on s'était connus. Donc elle m'avait dit, David aimerait bien te revoir, voilà. Il est à Place de Clichy, donc il n'est pas loin de chez nous. Bah, je dis pas de problème, on y va.
C'est quoi David Relax ?
David Relax, c'est un salon de massage où il opérait un peu ses prestations.
Moi, je fais les marchés, toujours, et je suis avec un gros pote qui fait de la boxe avec moi, on l'appelle Grand Ben, et je lui dis, 1m92, 110 kilos. Hein. Et je lui dis, on rentre par Place de Clichy. On ressort pas par le périph. On va voir si David, il est là-bas. Moi, j'avais besoin de quelqu'un, en fait, pour venir avec moi. J'arrivais pas à y aller seul. C'était compliqué de me dire, si c'est vrai, je me retrouve face à lui, je pense que je vais prendre un phare ou je vais pas vivre le truc normalement. Donc, je prends le camion, je me gare à Place de Clichy, je vois l'adresse et je vois la plaque David Relax. Ça se concrétise. Je monte troisième étage, je sonne, et il y a une vieille qui ouvre. Et je dis, David, il est là ? Elle me dit, oui, entrez. Bah, on rentre, elle dit, mettez-vous là. Elle ouvre une porte, on voit une salle d'attente. Je m'assois, Grand Ben, il s'assoit, il y a les magazines. Et moi, je regarde, et je vois que des trucs homo. Je dis, viens, on se casse. Je me lève doucement, et je vais pour ressortir. Et j'ouvre la porte pour sortir, et je vois un chien, un bosseron, très grand, et moi, un peu craintif. Je referme la porte, je dis, oh putain, regarde. Et il m'a dit, vas-y, sors. Ben, j'ai dit, sors toi le premier. Et je vois David comme la porte, il a un petit short en cuir noir et un Marcel blanc. Et je vois un peu épilé, c'est. Et je regarde, et il me voit, et il dit rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, non, mais on s'est trompé. On va revenir. Je ne savais même pas quoi dire. On va revenir. Il m'a dit, non, mais attends. Rappelle-moi, j'ai pas ton téléphone. Et on s'est sauvés.
Et ben ça, c'était les, Les premières fois que je l'ai retrouvé avec Marilyn, et il nous présentait son chien. Il adorait les chiens, il adorait cette race de chiens, les Beaucerons. Voilà, donc là, on nous voit avec Marilyn, avec les chiens.
David Relax, ça ressemble à quoi, c'est...
Statue grecque, colonne, mur en zèbre, rideau, tenture. Voilà, c'était un peu ça, quoi. C'était.
Alors, il opère ses prestations dans...
Ah, dans l'appart. Ah oui, là, il fait rien dehors. Hein. Tout est sur rendez-vous, c'est très clean, c'est très codifié, c'est très... Il n'y a pas de... Non, là, c'est du sérieux. Là, il commence à engranger un peu pour ses futurs projets.
Là, ici, on retrouve la petite carte de visite. Voilà. David, voilà. 21 ans.
Ça, c'est la publicité qu'il y avait dans Guépier à l'époque. Donc ça, c'est de juin 81. C'était quand même incroyable. Détente, relaxation, soins esthétiques. Et c'est tout ce qu'il raconte dans son bouquin, où il y avait trois cabines. Et il installait les clients, il passait à l'un, ça durait 20 minutes, il avait une petite cassette avec la musique, et puis après il passait à l'autre, et c'est comme ça qu'il en a fait 13 000. Et se vantait de ça, quoi. C'était quand même assez, vraiment un travailleur sexuel compétent, quoi.
Hervé Latapie, vous êtes né la même année que David Girard.
59,
ouais. En 59. Est-ce que vous l'avez connu, rencontré? Est-ce que vous vous souvenez du personnage?
Alors, je ne l'ai pas connu personnellement. Je me souviens évidemment du personnage parce que moi, j'ai aussi été militant. Je me rappelle par exemple en 88, etc. Donc, je l'ai croisé, je l'ai vu. C'était un petit personnage, toujours habillé, enfin simplement, c'était pas une modasse, quoi. Plutôt sympa, quoi. Bon, c'est le premier militant travailleur sexuel, quoi. Voilà, à ma connaissance, hein.
Cher David, les nuits de Citizen Gay, de David Girard. Tout en moi les agace. D'abord que j'ai commencé sur le trottoir, que je ne m'en cache nullement, et que partant de là, aucune insulte n'est de prise sur moi. Ils n'ont pas hésité à me traiter par écrit dans des articles qui ne les honoraient pas vraiment de pute. Mais quoi ? C'est la vérité ? C'est ma vérité. Et je la crie plus fort qu'eux. Pour moi, cela n'a rien d'insultant. C'est comme si je les traitais de PD. On peut me dire ce qu'on veut. Tout glisse et rien ne me touche. J'avoue que cela doit être dur. Mon sourire aussi les agace. Parce qu'il est preuve d'un certain bonheur. Et qu'être heureux est impardonnable aux yeux de certains.
Saïd, quel est votre rôle, vous, au King Sauna ?
Alors moi, j'étais responsable du King Sauna. Donc, je gérais le personnel, puis tout le bon fonctionnement de l'endroit. Le King Sauna, c'est sa première affaire. Ça s'est décidé là. Là, on était sur les canapés, là. Et il a décidé un jour de chercher un emplacement pour créer un sauna. Et là, ça a cartonné. Carrément, il avait fait de la pub, il avait... C'était annoncé comme vraiment sauna gay, rencontre, dès le début. Alors, là, on arrive dans le quartier du King Sauna, c'est-à-dire la rue Bridaine, la rue Bourseau, dans le 17e arrondissement de Paris. Là, on est face à une vieille boulangerie qu'on a bien connue avec David. On a passé des moments magnifiques avec la patronne Léo. Maintenant, je suis face à l'immeuble du King Sauna, c'est-à-dire c'est un immeuble de 5 étages avec le King Sauna au rez-de-chaussée. Et alors, je me souviens qu'au 4e étage, David avait loué un bureau. C'était son premier bureau avant d'avoir le 21 rue de la Chapelle. Il avait son bureau là-haut et c'était aussi un peu sa garçonnière. Alors il draguait un peu au sauna et il montait au bureau, il disait, on va au bureau. Donc c'était assez marrant, mais bon, on en a tous profité, je crois, du bureau. Hein. On y allait tous, soit se reposer, soit s'amuser, soit voilà.
Quand je venais, j'avais un endroit où je pouvais m'installer. Moi, j'étais en fait ami avec le gars qui faisait les travaux. Donc moi, j'étais plutôt curieux.
Pourquoi une installation dans le 17e arrondissement?
Et justement, une installation dans le 17e arrondissement pour casser les codes un peu, pour pas être dans les endroits où il y avait tout le monde.
En revanche, il avait quand même décidé d'installer sa boîte, son restaurant, dans le premier arrondissement où il y avait déjà des lieux comme le BH, le Broad.
Là, après, la boîte, c'est autre chose. Il avait déjà de la notoriété. Il a envie d'ouvrir dans les Halles, à côté d'une autre boîte, il le fait.
Hervé Latapie, où on se trouve là, à l'instant?
Alors à l'instant, nous sommes au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue du Roule. Et ici, dans ce coin-là, vont ouvrir des établissements populaires. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le commerce gay se popularise. Et on passe en gros de l'ambiance planquée chic, chic pouf, disait Yves Navarre, rue Sainte-Anne, pour, par exemple ici, le Haute Tension, hein, avec deux univers, deux ambiances complètement différentes. Et il y a à côté également le BH. Et puis un peu plus loin, là-bas au Hall, il y avait le Broad. Donc c'est vraiment une... J'allais dire une révolution, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça change complètement. Quoi. On passe d'une sociabilité un peu derrière les barreaux, un peu chic, où il fallait payer, à une sociabilité voilà, populaire. Et c'est vrai que c'est David Girard qui incarne ce changement. Quoi.
Paris, le 16 juin 1982. À l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice de l'époque, Robert Badinter, défend la dépénalisation de l'homosexualité.
Le moment est venu pour l'Assemblée d'en finir avec ces discriminations, car elles sont en vérité indignes de la France.
Le 27 juillet 1982, l'homosexualité est dépénalisée.
Colin Giraud, vous êtes sociologue. On est dans quel contexte à ce moment-là, à la fin des années 70-1980? Quelle est la situation par rapport à l'émergence de ces quartiers?
Donc le début des années 80, c'est une période de transition, on peut dire, entre deux époques, quoi. Une époque qui est caractérisée par une première concentration de lieux destinés aux populations homosexuelles à Paris. Il en existe beaucoup, qui sont concentrés pendant les années 70 essentiellement autour de la rue Sainte-Anne, dans ce quartier-là de Paris. Et ce sont des lieux qui sont essentiellement des lieux nocturnes, des lieux qui sont encore très fermés, qui sont soumis à des restrictions législatives sur l'homosexualité en France, des lieux qui sont aussi plus réservés à une clientèle, on va dire, plus bourgeoise, plus favorisée, des lieux qui sont encore chers, et donc plus difficiles d'accès. Ce qui se passe dans les années 80, c'est effectivement une migration de ces établissements vers deux secteurs, le secteur des Halles, et le secteur du Marais en tant que tel. D'une certaine manière, David Girard, il remplit, on pourrait dire, une partie du contrat promis par le candidat Mitterrand en 1981, changer la vie. C'est-à-dire que il a ouvert des lieux, il a donné accès à des choses, à des populations gays qui y avaient moins accès auparavant, et notamment dans les années 60 et 70.
Quand dans la rose rouge de l'espérance, aux opprimés de tous les continents, l'histoire est là qui nous offre une chance, changeons la vie ici et maintenant.
Alors, on va vers Haute Tension.
On va aller, ouais.
D'accord.
Hervé Latapie, vous êtes client de cet établissement à l'époque?
Bah oui, voilà. Donc moi, pour tout vous dire, je suis arrivé donc en 79 à Paris, j'avais 20 ans, et les établissements gays, à toutes les époques un peu, c'est chaleureux parce qu'on est serrés les uns contre les autres, il y a beaucoup de monde, donc c'est comme ça qu'il y a cette ambiance où on est entre nous, dans un espace safe, et voilà, donc on est serrés, quoi, et c'est ça qui est intéressant.
Tim Madescler, de quelle manière vous avez approché le personnage David Girard et votre rapport à cette époque des années 80?
J'ai pas approché David Girard. Le plus proche que j'étais de David Girard, probablement, c'est quand il tenait la caisse de Haute Tension. Moi, j'habitais au Hall quand j'étais adolescent. Donc, j'ai vu le quartier s'installer. Et l'accès, disons, aux boîtes gays qui s'installaient dans le quartier était assez facile, hein, on va dire, puisque c'était en bas de chez moi. J'ai commencé ma jeunesse gay dans les Halles des années 80, puisque je me suis installé là-bas en 80, 81, je sais plus, et que j'avais 16 ans. C'est comme ça que j'ai approché David Girard. C'est-à-dire qu'en fait, Haute Tension, on vous a sans doute décrit, c'est une espèce de petite boîte rue Saint-Honoré. L'entrée était tout à fait minuscule. Hein. La vitrine, c'était plutôt l'ancien monde. C'est-à-dire, c'était très neutre, on voyait pas, il y avait quand même une porte, on entrait dans la porte, il y a un tout petit sas, une caisse avec dessus David Girard souvent et Zaza Dior. Et tout de suite, on entrait dans le bar en haut.
Zaza Dior, alors, c'est qui ce personnage
C'est la caissière. Hein.
Oui.
Pour moi, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, c'est la caissière. Je ne suis pas censé savoir que Zaza Dior a une carrière internationale à côté. Moi, c'est ça que j'ai comme souvenir. Il y avait un grand bar qui faisait toute la longueur de l'établissement, où là, ça buvait, gnagnagna. Et après, il y avait un escalier qui descendait dans les caves des Halles, c'est-à-dire c'est les caves voûtées, où là, il y avait la boîte de nuit. Il y avait la boîte, il y avait la piste de danse, et puis il y avait les toilettes, et puis il y avait une première backroom, mais après, il y avait au fond un autre bar qui était plus ou moins un lounge, quoi. Mais tout ça était dans les caves voûtées. Donc c'était cette ambiance-là, le haut tension. Et c'était... quand je dis que c'est à cheval sur un autre, les deux mondes, c'est qu'il y avait encore des danses du tapis, ce qui, moi, me scandalisait, parce que c'était vraiment pas ma culture. Et en même temps, c'était un endroit où il y avait de la house, hein, assez rapidement. Ou en tout cas, surtout, il y a eu beaucoup de high energy. C'était quand même le temple de la high energy à Paris. Donc, fondamentalement, c'était un endroit très important. Et surtout, c'était un endroit qui n'était pas forcément branché, entre guillemets, qui était plus populaire, qui était un peu n'importe quoi, en fait. Ce qui était aussi agréable. C'était marrant, en tout cas. C'était blindé de monde. Je ne sais pas comment on faisait pour accepter autant de gens dans un si petit endroit. Des jeunes gays des années 80, quoi.
Alors, lui, il estimait que, effectivement, comme c'était le gars de banlieue, populaire, bon, il ouvrait des endroits pour faire la fête, pour que ce soit pas cher. Alors, bon, si on compare avec Fabrice Emaer, qui est au Palace. Fabrice Emaer au Palace, c'était la grande soirée Sissi Impératrice, voilà, c'était la fête des grands couturiers, de Kenzo, Karl Lagerfeld, etc. Bon, et puis ici, à Haute Tension, c'était le concours des plus belles fesses, voire de la plus belle. Voilà. Et effectivement, c'était plus du tout le même aspect culturel, quoi. C'était populaire, effectivement, quoi. Mais ça ne déplaisait pas, hein. Ça plaisait aux gens et tout, c'était aussi sympathique, quoi.
Ah, mais celle-ci, c'était une soirée à thème. Alors, Haute Tension, il adorait les soirées à thème, avec des grosses décorations, déguisées. Alors là, on le voit habillé en hippie des années 70, avec des grandes lunettes à la Michou. Et moi, je suis à côté de lui, on est à la caisse, là, on fait les entrées, on papote et on accueille les gens en même temps. Et cette soirée, elle était très, très sympa, je me souviens. Et...
Je reviens donc sur ses activités. On a dit qu'il y a...
Donc, il y a le King Sauna. Tout de suite après, il y a 5 sur 5 et le King Night. 5 sur 5 qui est le magazine gratuit qui faisait un peu la promotion des saunas et des établissements gays aussi qui étaient dans Paris. Parce qu'il a commencé ce truc de publicité aussi, à démarcher tous les établissements de Paris et à les fédérer pour leur faire de la pub. C'était un des premiers qui faisait ça.
Quand j'étais dans le bureau rue Briden et qu'il a commencé ses affaires, il m'a dit « je vais faire un magazine gay ». Gratuit. Je dis pourquoi ? Il me dit parce que là je paye de la pub pour le sauna, il faut que je trouve une solution pour avoir un truc sur lequel je peux avoir un support gratos et sur lequel c'est les autres qui vont financer, etc. Et là il va commencer à me demander, il me dit ça ne te dérange pas, tu me déposes, j'ai un paquet, tu me le laisses dans un truc de homo, et tu rentres, tu donnes. C'est de cette manière que j'ai mis un pied dans ce milieu.
Et ensuite il y a eu donc le King Night. Ensuite, il y a eu Bronx, la marque de Poppers. Ensuite, il y a eu Haute Tension. Il y a eu Megatown, le cirque d'hiver.
À côté du Haute Tension, il y a un restaurant.
Voilà, il y a le restaurant qui s'appelait David Resto.
Le Minitel.
Le Minitel, alors oui, le Minitel, c'était une aventure en soi, quoi. C'était le truc nouveau. Et il avait inventé quelque chose. C'était des sites de rencontres.
Lui, par exemple, le... Son site, c'était ça, hein, c'était, voilà.
3615, code gay, je crois.
Voilà, hein, c'est ça. C'est maman, mon Minitel est PD. Hein. Et donc, ils expliquent le Minitel, télématique, etc., mode d'emploi.
Colin Giraud, est-ce qu'on peut parler d'un héritage, en fait, de cette époque-là ? Est-ce que c'est un tournant ? Est-ce que ça marque ?
Oui, alors le rôle ou l'héritage de cette époque et de ce personnage, peut-être qu'on peut le relier à ce qu'on a appelé le développement dans les années 90, à partir des années 90 essentiellement, et puis de façon continue depuis, hein, de ce qu'on a appelé la pink economy, c'est-à-dire l'ensemble des activités économiques ou générant des revenus liés à la population LGBT ou la population gay en tant que telle. Et on peut dire que les années 80 sont une espèce de période embryonnaire, ou en tout cas dans laquelle se posent les jalons de cette pink economy, qui se développera de façon croissante et conséquente ensuite. Et d'une certaine manière, David Girard, par son côté touche-à-tout,
ou ses multiples entreprises traduit un petit peu ses premiers jalons. Donc c'est une espèce d'archéologie de la pink economy qu'on voit se dessiner quand on revient sur le parcours de David Girard dans les années 80.
Parallèlement à tout ça, il créait ses soirées dans d'autres établissements. Et notamment, alors la plus connue, c'était le Cirque d'Hiver. C'était la folie. C'était vraiment incroyable. Je sais pas combien de milliers, on était bondés. Il y avait 3 000 à 4 000 personnes, 5 000 personnes, je sais pas. Tout le monde était agglutiné à l'entrée. On avait même plus de place dans les caisses. On prenait des sacs poubelles pour mettre l'argent. Ah ouais. On avait des sacs poubelles. Les caisses étaient pleines. On mettait l'argent comme ça dans des sacs poubelles. Puis pareil, la clientèle, c'était vraiment, il y avait tout le monde. Ça allait des hommes politiques, des journalistes, des acteurs, des comédiens.
À la sortie du magazine de...
GI, voilà. Gay International.
Je crois qu'Yves Mourouzi l'avait annoncé dans son journal de 13h. Et là, on les voit sur la photo avec Serge Gainsbourg et Bambou.
Et puis Yves Mourouzi, David Girard. Oh, et voilà. Ouais. Ça, c'était la fête qu'il y avait donc, au Cirque d'Hiver. Hein. Il s'était payé le Cirque d'Hiver. À l'époque, il y avait beaucoup de fêtes gays au Cirque d'Hiver. C'est assez rigolo parce qu'il y avait il se passait des choses dans les écuries, enfin, où il n'y avait pas d'animaux, bien sûr, hein, mais bon, c'était dans le local, quoi, c'était assez rigolo, quoi. Il y avait beaucoup de fêtes au Cirque d'Hiver, quoi.
Et après, il a fait Mégaton. Et Mégaton. Là, ça a été, pour moi, le summum. Il m'a dit, ouais, il y a un truc qui s'appelle la Nuba, une boîte de black. Tu vois le Luxor à Barbès, c'est dans l'angle, dans le carrefour, et il m'a dit, on pourrait commencer par des T-dances. Il me dit, tu peux refaire la sécurité. J'ai dit, ouais, on va voir combien on peut amener de mecs là-dedans, c'est pas mal. Et il a monté un premier T-Dance, on l'a fait du monde, mais beaucoup. Et après, il a dit, on en refait un deuxième. Et après, comme il avait ses magazines, il a commencé à dire, on va essayer de voir si on peut récupérer la boîte. Et puis, on a récupéré la boîte. Et finalement, Mégaton, ça s'est arrêté. Il y avait de moins en moins de gens qui venaient. Et à la fin, on s'est retrouvé qu'il y ait 3 000, 2 000, 1 000. Et à la fin, c'était plus rentable.
Donc là, il a eu un peu la folie des grandeurs, quoi. Et un lieu comme ça, bon, si on prend l'exemple du Palace, le Palace était gay le dimanche soir et le mercredi soir, quoi. Le reste du temps, c'était pas gay parce que on est quand même une minorité. Donc au niveau de la clientèle, voilà. Donc
il n'arrêtait pas d'investir
dans de nouvelles activités.
Dans de nouvelles activités. C'est pour ça que je dis qu'il aurait progressé énormément s'il avait été encore là, parce que là, il était prêt à passer à l'étape supérieure. Après Megatown, il était prêt à s'envoler un peu plus. C'était que le début, les 10 premières années. On a eu que les 10 premières années, mais ça aurait été énorme après.
C'était David Girard, le prince du business gay, épisode 1, bâtir et briller sous l'arc-en-ciel, avec Colin Giraud, sociologue, auteur de Quartier gay aux Presses universitaires de France, Hervé Latapie, fondateur de l'association Paris Gay Village, Tim Madescler, Saïd et Loab. Prise de son Hervé Dubreuil, mixage Claire Levasseur, documentalistina Samia Jedi, documentaliste Marion Guilaine, chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin, un documentaire de Yves Deloison, réalisé par Nathalie Salle. À suivre dans l'épisode 2. Businessman gay des années 80 au parcours fulgurant, David Girard fascine et dérange par son audace et son sens de la fête. Objet de polémique, il ignore critique et jaloux et poursuit son aventure en toute insouciance. Mais à quel prix ?